vous posez la question. Ce matin, j'ai aussi appris que voilà, quelqu'un est petit-fils de M. Nicole. Donc, je me dis, mon prof adoré, c'était mon prof à Vaux-sur-Seine. Et je me dis, bah, si on est petit-fils de M. Nicole, on devrait avoir, je sais pas, l'aura de ce grand-père. Bah, en fait, chacun est différent. Chacun est complètement différent. Et puis, c'est pas parce que mon grand-père est un homme de Dieu, un homme qui a fait son chemin, que nous sommes chrétiens aussi. Parce que nous aussi, personnellement, on doit faire notre propre chemin. Amen. Et c'est pour ça, je pense, que ce matin, on est là, pour écouter la parole de Dieu. Je vais vous lire le passage que vous connaissez tous, dans Luc 15, sur le fils prodigue, à partir de verset 11 jusqu'à la fin. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père, ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a trouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devons faire une fête et nous réjouir, car ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. » Amen. Jusqu'ici notre lecture. C'est une belle histoire. Et je voulais absolument, je tenais absolument relire tous ces versets, parce que forcément, nous connaissons cette histoire, mais pas forcément en détail. Et la lecture nous fait rafraîchir notre mémoire. Voilà donc, dans ce parabole du fils prodigue, nous pouvons rencontrer trois personnages intéressants. D'abord, le fils cadet. Alors, le fils cadet, déjà, nous apprenons à travers cette lecture qu'il savait déjà qu'une part de l'héritage lui revenait de droit. Alors, son père, déjà, qui était assez riche, lorsque ce cadet a demandé son héritage, il accepte. Ce cadet voulut connaître surtout le monde, le plaisir charnel. Il a tout vendu, son bien, pour faire en argent, et il a voulu utiliser tout son argent pour son désir personnel, égoïstement. Il a voulu profiter de sa jeunesse et mener une grande vie. Il ne voulait pas prendre de responsabilité, loin de là. Dans cette démarche, en tout cas, il a fixé son regard vers le monde, pas vers le Seigneur. Et là, j'aimerais nous demander où est-ce que nous fixons nos regards en ce moment. Parce que selon nos regards, où nous fixons, notre jugement, notre discernement peut changer. En tout cas, ce fils cadet avait fixé son regard vers le monde, vers le plaisir charnel. Et c'est comme ça qu'il a pu dilapider auprès des prostituées, auprès de ses faux amis. En général, lorsque nous avons de l'argent, il y a des faux amis qui nous entourent. En tout cas, ses faux amis l'ont dépouillé. Il a tout perdu. C'était son choix, lui, d'aller dans le monde. Il a tout perdu. Et puis, en tant que cadet, je pense qu'en prenant cette décision, il ne se sentait pas du tout responsable vis-à-vis de sa famille. Parce qu'il y avait son grand frère. Il était le cadet. Il n'était pas obligé de prendre les affaires de famille. Pour information, je suis aussi le cadet de la famille. Depuis tout petit, j'ai vu mon grand frère, qui avait à peu près 3 ans plus que moi, réussir tout. Il était pour que ce soit pour les gens de l'église, pour ses amis, pour mes parents, il était parfait. Vraiment, ce n'est pas parce que pour comparer avec cette parabole que je vous dis des éloges pour mon frère. Il avait réussi sa vie. Il s'est marié à 23 ans très tôt avec son premier amour. Donc, jamais de problème avec d'autres filles, quoi. Et puis, ils ont eu tout de suite un enfant. Il est devenu directeur d'une grande boîte à 27 ans. Donc, que ce soit financièrement, matériellement, et en plus, spirituellement, puisqu'il enseignait aussi la Bible dans notre église. Donc, tout était parfait. Moi, le cadet, en le voyant, je me suis dit, c'est bon, quoi. Il a fait sa part pour toute la famille, donc je peux vivre autrement que lui. Voilà. Et j'ai regardé le monde, j'ai fixé surtout le monde, et puis... À 19 ans, vous savez, le monde s'offre à vous, non ? Bah, si, quand même. Et puis, j'ai jamais essayé, donc je voulais essayer. Hein ? Et quand je lis cette histoire du parabole du bon, enfin, de, pas bon samaritain, du fils prodigue, je me rappelle moi-même quand j'avais 19 ans, quand j'ai regardé le monde, même si j'ai bien sûr, j'ai eu une vie de foi depuis tout petit. Mes parents étaient chrétiens, ils m'ont élevé dans une église, ils m'ont inculqué avec l'enseignement chrétien. Ils m'ont donné des grandes valeurs chrétiennes aussi. Mais malgré cela, lorsque les plaisirs, le désir charnel vous présente comme ça, en tout cas, surtout à 19 ans, j'avais vraiment des grands désirs, vous savez. Et puis surtout, je ne me sentais pas du tout responsable. Là, je me suis tourné vers le monde. Ce fils cadet a fait exactement la même chose. Il a dilapidé sa fortune en vivant dans la débauche. Et puis à la fin, après avoir tout perdu, il se rend compte enfin sa situation. Il commence déjà à réfléchir. Au verset 17, il est dit, alors il se mit à réfléchir sur sa situation, puisque là, il avait vraiment faim, il mordait faim. Il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Ce qui est intéressant, c'est que ici, il demande, enfin, en réfléchissant, il s'humilie enfin. Il voit son état de pécheur. Enfin, il comprend qui il est. Enfin, il commence à comprendre les bénédictions qu'il avait reçues lorsqu'il était sous le toit de son papa. Il revient auprès du père en se disant, oui, moi je suis prêt maintenant, non pas pour redevenir le fils, mais le serviteur. Il s'était humilié, il était prêt à revivre une vie différente. Et donc il revient chez son père avec un cœur assez lourd. Et là, ce qui est encore intéressant, c'est qu'il ne demande pas pardon seulement à son père. Il dit, il a péché contre Dieu et contre son père. Lorsque nous commettons des péchés, nous commettons des péchés contre Dieu et contre mon frère, contre ma sœur. Irresponsable qu'il était, têtu comme il était, bah après avoir vécu ce moment d'épreuve, il a pu changer. Son cœur était brisé complètement et il s'est tourné enfin vers le Seigneur. Combien de temps avant son retour? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a intervenu pour qu'il revienne auprès de son Père. Sa repentance était sincère et on voit bien vraiment qu'il y a eu un changement d'attitude. Tout cela, bien sûr, non pas par ses propres forces, mais par la grâce de Dieu. Ensuite, on voit un autre personnage, le Père. Le Père qui est miséricordieux, plein de bonté, lent à la colère, hein, riche en bonté en tout cas. Et ce Père, après avoir laissé partir son fils cadet, il souffrait énormément. Et surtout, il attendait impatiemment son fils. Au verset 20, il repartit donc ce fils cadet chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est son papa, son père, attendait toujours le retour de son fils qui était parti dans le monde. Il était aux aguets. Il était toujours dans l'attente de son retour. Et lorsqu'il le retrouve, tout de suite, il l'accueille non pas comme un serviteur, mais comme son propre fils. Il organise une fête avec un grand festin en son honneur. Et il le restaure comme avant, comme son fils. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fils qu'il croyait avoir perdu est retrouvé. Le fils qu'il croyait mort est vivant. Et là, cette vérité le rendait tellement joyeux. Et puis même s'il avait tout dilapidé son héritage, de toute façon, ce n'était pas important, ce n'était pas grave. Ce n'était pas ça le plus grand enjeu. Le plus important, c'est qu'il soit vivant et qu'il a pu revenir. Et donc, quelle joie d'avoir retrouvé un fils transformé aussi par la grâce de Dieu. Ce Dieu, le Père, il nous attend aussi. Lorsque nous sommes loin de lui, Notre Dieu, notre Père, nous attend comme ce Père. On attend de notre retour. On attend que nous puissions nous repentir devant le Seigneur sincèrement. Pas juste avec des paroles. Bien sûr, on peut demander pardon avec des paroles, mais c'est complètement différent. Une repentance sincère. Et puis, notre Dieu, ce bon Dieu, il est patient. Il est miséricordieux. Je vous avais dit, j'étais dans le monde. J'ai fait souffrir beaucoup à ma famille, à mes parents, et puis à mes amis aussi. Et ceux avec qui je me suis traîné, je les ai fait souffrir aussi. Mais surtout, mes parents étaient patients. Lorsqu'ils ont vu tous mes péchés, ils ont été patients, miséricordieux. Ils ont eu beaucoup pitié de son fils. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment découvrir, ou en tout cas, cette grâce qui est inexplicable. Il est dit dans la parole de Dieu, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Oui, le Seigneur, lorsque nous revenons, lorsque nous commençons à lui faire confiance, comme ce fils cadet, le Seigneur renouvelle nos forces. Nous voyons dans cet épisode que lorsque... on voit que le Père a vu de loin ce fils. J'ai l'impression que si, lorsque le fils cadet avait fait un pas, le Père était tellement impatient, il aurait dû faire au moins 10 pas, hein, n'est-ce pas? Je vois cette scène, il est un petit peu lent à venir parce qu'il se sent coupable. Et il s'humiliait, il avait honte de tout ce qu'il a pu vivre. Alors que le Père, lui, sans jugement, il court auprès de son fils perdu parce qu'il l'aime, tout simplement. Parce qu'il nous aime. Dieu nous aime tel que nous sommes, même avec nos défauts. Mais si nous revenons vers lui, il nous accueille à bras ouverts, comme ce Père qui a accueilli son fils cadet. Et puis il y a le fils aîné. Quelle a été sa réaction en apprenant cet épisode? Voilà, il revient du champ, c'est-à-dire il était en train de travailler durement pour son père, et comme d'habitude, fidèlement, hein, comme un bon fils. Et il revient de sa journée fatigante. Et puis, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que son frère, qui était parti dans le monde, est revenu. Et non seulement il est revenu, mais il est accueilli à bras ouverts par son père, qui lui a jamais offert même pas un chevreau, hein, mais qu'il a pris un veau gras, hein, pour faire un festin, pour faire une fête, pour se réjouir ensemble. Et là, en apprenant cette nouvelle, il est en colère. Il est en colère. Il est vraiment en colère parce que ce fils de son père a dilapidé tout son argent auprès des prostituées. Vous vous rendez compte? Ce fils aîné n'a jamais été proche de toutes ces prostituées. Hein? Il n'a jamais été dans le péché. Et là, il voit que son jeune frère, qui a tout dilapidé ou qui était complètement dans le monde, dans le péché, il revient et on lui fait une grande faveur. Il ne comprend rien. Et puis, il pense que voilà, maintenant qu'il a tout perdu, il revient pour encore mendier auprès de sa famille. Il ne l'accepte pas. Il est vraiment en colère. Il se dit, mais c'est injuste, c'est vraiment injuste. Je pense que dans le monde, on pourrait avoir la même pensée. C'est vrai, hein, il a fait des bêtises, donc c'est normal de lui accorder une certaine sévérité. Ben non. La logique du Seigneur est différente par rapport à notre logique. Son amour dépasse notre entendement. Ce fils aîné, malheureusement, il s'est dit, moi, j'ai jamais trahi mon père. J'ai toujours obéi à mon père. Mais qu'est-ce que ce père est en train de faire vis-à-vis de mon frère qui revient du monde? Alors que moi, qui étais toujours fidèle et irréprochable, en tout cas, en apparence, en tout cas. Donc, si je résume un petit peu, ça donne quelqu'un qui se base sur sa propre justice devant Dieu et devant les hommes, qui reproche à Dieu de ne pas le bénir au moment, au moins un peu, en échange de services rendus. Il a fait tellement de choses. J'ai fait ceci, mais pourquoi alors je n'ai pas cette bénédiction? Il y a cette logique qui est appliquée dans sa vie personnelle. Ce grand frère accuse son jeune frère de ne pas être aussi bien que lui. Vous savez, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Quand nous lisons cette parabole, on se dit, nous aussi, sans faire exprès, nous apportons un regard de jugement. Pas forcément quelqu'un qui fréquente des prostituées, pas forcément, mais des gens qui viennent à l'église. Parfois, nous pouvons dire bonjour et au revoir avec beaucoup de grands sourires, mais on peut avoir un certain jugement parce que celui-là, il a fait ceci. Celui-là, il a fréquenté telle ou telle personne. Ou parce que, on peut avoir un regard de jugement. Mais qui sommes-nous pour apporter un jugement? Qui sommes-nous pour jeter la première pierre alors que nous sommes nous-mêmes dans le péché? Personne n'est juste, pas un seul dans ce monde, à part le Seigneur. Qui sommes-nous pour apporter un tel jugement contre mon frère, ma sœur, qui peut-être est dans la faiblesse? Il est dit dans Jacques 2, verset 13, en effet, Dieu sera sans pitié. Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Est-ce que nous avons ce sentiment miséricordieux, ce sentiment de pitié vis-à-vis de mon frère, ma sœur? Il est dit encore dans Jacques 2, « Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre de jugement. » Voilà une bonne nouvelle. Dieu, ce matin, nous invite à s'estomper, à débarrasser tous ces sentiments de mépris, d'orgueil, de jugement aussi vis-à-vis des autres, de mon prochain. Ce grand frère était jaloux de son petit frère. Et il ne comprenait pas vraiment le raisonnement de son papa. En tout cas, dans cet enseignement du Christ, parce que c'est Jésus qui parle cette parabole à ses disciples, mais aussi aux pharisiens qui étaient présents. Et puis aussi à toutes les personnes qui étaient présentes. Cet enseignement du Christ s'adresse autant aux pharisiens, qui étaient des légalistes, qu'aux personnes de mauvaise vie. Voilà un bel exemple qui nous rappelle que Dieu nous accueille tels que nous sommes, mais que ce n'est pas parce que nous avons des années d'expérience de chrétienté dans l'Église que nous sommes tout justes. Nous avons tout bon. L'aîné a choisi la fidélité et l'obéissance et il croyait que ses œuvres accomplies suffisaient pour avoir les faveurs de son père. Ce n'est pas parce que nous avons fait des bonnes choses pour le Seigneur, ce n'est pas parce que nous servons Dieu chaque dimanche, ce n'est pas parce que nous venons dans la semaine pour faire le ménage que nous sommes sauvés. Vous savez, dans ma vie, j'ai enterré beaucoup de personnes en tant que pasteur. Je ne sais plus, en tout cas, dans l'ancienne église, j'avais enterré 33 personnes. Et parmi toutes ces personnes, il y avait beaucoup de gens qui étaient fidèles, en tout cas, qui étaient prêts à s'engager pour Dieu. Je disais par exemple, écoute, je vais pas vous nommer son nom. Écoute, j'ai un problème avec le portail. Et là, il venait tout de suite pour réparer. Le jour même. Bon, il était retraité d'ailleurs. Mais en tout cas. Et il réparait. Et je lui disais, écoute, j'ai besoin de ceci ou cela. Et il venait. Et même sans que je lui demande quoi que ce soit, il venait pour faire ce qui manquait à l'église. Donc, voilà, dans mes heures de bureau, je le croisais souvent. C'est comme s'il travaillait pour l'église. Mais en tout cas, il travaillait vraiment pour le Seigneur, pour l'église. Et puis, un jour, il tombe malade parce qu'il est gravement malade. Il a eu un cancer. Et je prie, j'allais souvent le visiter. Et la dernière semaine, il se cramponnait comme ça sur son lit en disant que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur de la mort. J'ai peur de ce qui va se passer après. Et j'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas. Si tu fais confiance à Dieu, hein, tout ira bien. Et puis, on a fait un travail de fond en comble pour qu'il puisse vraiment faire confiance entièrement à Dieu. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, c'est pas... je me suis dit, mais c'est vrai, moi je pensais qu'il était sauvé complètement. Mais c'est au moment de la mort, face à la mort, que j'ai compris que, non, il était un jeune enfant. La foi était comme une tradition pour lui, une religion qu'il a pratiquée depuis tout petit parce que ses parents l'emmenaient à l'église et qu'il a grandi dans l'église. Et c'est seulement vers la fin de sa vie qu'on a vraiment travaillé ensemble pour avoir la paix. Maintenant, je ne sais pas où il est. Seul Seigneur sait. Pour vous dire que ce n'est pas parce que nous avons toujours été fidèles, obéissants, que nous irons, nous rejoindrons auprès du Seigneur. C'est vraiment notre disposition de cœur. Parce que Dieu regarde le cœur, non pas l'apparence. Et puis, ah oui, ce qui est encore intéressant, peut-être un dernier point. Alors, à partir du verset 29, le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Je vous rappelle qu'au verset 12, le père, il est dit, « Le père partageait ses biens entre ses deux fils. » Il avait déjà reçu aussi. S'il voulait, il pouvait faire sa fête avec, autour d'un chevreau, avec ses amis. D'ailleurs, le père lui aurait permis, mais il n'avait pas vraiment compris la pensée de son père. Au verset 30, « Mais quand ton fils, attention, là il dit, mon frère, il dit, quand ton fils que voilà revient, c'est-à-dire qu'il ne le traite plus comme son frère. Lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère... » Là, le père lui rappelle que ce fils que cette personne que tu traites indifféremment est quand même ton frère. Ce n'est pas juste seulement mon fils, c'est aussi ton frère. Voilà, à travers cette discussion, nous pouvons apprendre que le père veut enseigner encore son aîné à revenir, à fêter, à se réjouir de ce retour d'un frère perdu et qui est revenu. On n'a pas forcément la conclusion de ce qui s'est passé après. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que Dieu est bon. Dieu restera bon. J'aimerais conclure. Euh, Nous avons vu trois personnages assez différentes. Et nous avons aussi vu qu'il y avait deux sortes de personnes, deux appels. Tout d'abord, ceux qui étaient dans le péché à revenir auprès du Seigneur, mais aussi aux pharisiens, ceux qui se sentaient justes, ceux qui se sentaient même supérieurs, puisque les pharisiens, justement, connaissaient très bien la parole de Dieu et pratiquaient la loi de Moïse de manière assez littérale. Et ils croyaient avoir le salut automatiquement parce qu'ils étaient aussi des fils d'Abraham. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui nous garantit le salut. Le garantit notre salut, c'est par la foi seule et aussi par la grâce de Dieu. Que nous puissions nous souvenir de cela et aussi, surtout, sachant que Dieu est là, à nos côtés. Il veut nous protéger à n'importe quel moment. Lorsque nous sommes dans les difficultés, il nous a promis d'être là parmi nous jusqu'à la fin du monde, qu'on puisse se faire confiance à ce Dieu miséricordieux, bon, compatissant, riche en bonté, que nous puissions vraiment nous approcher de lui. Il a dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Le Seigneur nous a promis de s'approcher de nous si on s'approche de lui. C'est ce qu'a fait le fils cadet. Alors que le fils aîné s'est comporté un peu lamentablement. Il n'a pas vu la miséricorde de Dieu, de son Père. Et ce Dieu miséricordieux est là, et il veut que nous puissions vraiment repenser ce qui est le plus important. Et surtout, n'ayons pas aussi un mauvais jugement vis-à-vis de mon frère, ma sœur, ou peut-être des gens qui sont de mauvaise vie. N'apportons pas de jugement, nous ne sommes pas Dieu pour apporter un jugement. Seul Dieu peut apporter un jugement. Et surtout, faisons attention aussi avec ce que nous disons, parce que les paroles peuvent blesser beaucoup de personnes. Vous savez, les paroles, c'est comme un gouvernail. C'est comme un petit membre de gouvernail qui peut faire chavirer ou même faire bouger tout le navire. Pareil, notre langue peut avoir une puissance destructrice lorsque nous l'utilisons mal. Comment nous pouvons bénir et maudire avec cette même membre? Nous n'apportons pas de jugement, mais vraiment, bénissons-nous, entre nous, encourageons-nous, que le Seigneur soit au centre de nos relations pour que cette église de Vendeuvre soit même admirée et choyée par tout le monde et même vis-à-vis des gens du monde qu'ils voient que, oui, ils sont différents parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'on peut vraiment... moi, je vous lance ce défi de témoignage pour que les gens... qu'on puisse recevoir cet éloge de la part des gens du monde. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te confessons que nous ne sommes pas parfaits. Et que nous avons aussi erré à un moment donné, mais par ta bonté, tu nous as appelés. Tu nous as rappelé ce qui est le plus important et tu nous as accueillis. Merci Seigneur de ce que tu as pu déjà accomplir sur la croix pour moi, pour nous, pour le salut de l'univers. Et maintenant, nous voulons encore te faire confiance davantage pour vivre pleinement cette abondance dans le miracle du Seigneur. Merci encore de nous accorder ton Esprit Saint parce que c'est ton esprit peut aussi nous aider à aller de l'avant, à vivre selon ton discernement, ta sagesse. Merci encore de nous accompagner, que nous ne soyons pas comme ce fils aîné qui a porté un jugement vis-à-vis de son frère, mais que nous puissions vraiment être des gens qui bénissent, qui encouragent, qui renouvellent l'effort de mes frères. Merci encore pour ta présence ce matin avec nous. C'est au bon nom de Jésus que nous te prions. Amen.